continent. Avec Elgas.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, vous qui nous écoutez de partout sur le continent africain. Afrique, mémoire d'un continent, je vous l'annonce, c'est désormais sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, à nourrir les échanges, à contribuer à éclire cette histoire de l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Allons aujourd'hui à l'est du continent. Sur 1500 km de côte, en face des vents de l'océan Indien, avec des cités-états bien intégrées dans le réseau mondial du commerce, la culture swahili connaît un important essor au Xe siècle, avec des flottes maritimes performantes, des terres aurifères à la base d'un commerce prospère, mais également une agriculture nourricière et exportatrice. Les voyageurs qui découvrent ces villes sont subjugués par ce développement inédit. Kilwa, Mombasa ou encore Merka ou Marka, selon les prononciations, villes anciennes dans les actuelles Tanzanie, Kenya ou Somalie, ont fière allure sur cette côte orientale qui suscite la curiosité des Chinois, des Portugais et des Romains. Ibn Battuta, par exemple, le grand voyageur ou encore Pline l'Ancien, l'encyclopédiste, en font des récits élogieux. C'est un voyage dans l'histoire et la géographie de ce monde swahili que je vous propose aujourd'hui, au-delà de la langue connue, véritable locomotive panafricaine du monde moderne, retour sur les racines de cette floraison entre le Xe siècle et le XVe siècle en compagnie de l'historien Thomas Vernet. Thomas Vernet, bonjour.
Bonjour Elgas, merci pour l'invitation.
Je suis ravi de vous recevoir ici pour cette plongée dans l'Afrique très ancienne, on peut le dire ainsi. Je précise que vous êtes historien à l'IMAF, l'Institut des mondes africains, et que vous êtes également maître de conférences en histoire médiévale et moderne de l'Afrique à la Sorbonne. Alors, je vous propose, pour commencer cette émission, de faire un point géographique, chronologique et lexical. Alors, pour dire les choses plus clairement, on va essayer de situer ce qu'on va dire dans le temps et dans l'espace. Et aussi utiliser les bons termes, les termes adéquats. Que faut-il dire pour parler de cet ensemble swahili sur ces 1500 de côte, comme on l'a dit? Civilisation, culture ou monde swahili? Que faudrait-il dire? Et quand commence cet essor? Thomas Vernet.
Alors, on peut utiliser le terme monde swahili, culture swahili. Le terme civilisation est peut-être aujourd'hui un petit peu ancien. C'est peut-être un terme qui peut avoir une tendance à être un peu essentialisé les choses. Le terme monde me plaît bien parce qu'il permet aussi de parler un petit peu des marges de cette culture swahili du côté de Madagascar, du Mozambique ou de la Somalie. C'est une culture qui est homogène, mais il peut y avoir des différences, des influences aussi swahili sur des gens qui ne sont pas tout à fait swahili. Le terme monde me plaît bien, ou culture.
Partons donc aux cultures ou monde. Parlons géographie, on va sortir une carte, disons. On évoque souvent la côte orientale, au risque parfois d'oublier l'intérieur des terres, mais aussi les îles connues comme Madagascar ou les Comores, que recouvre la totalité de ce monde swahili. On va de où à où? Est-ce qu'on peut essayer de visualiser dans l'espace ce monde swahili?
Alors, cette culture swahili, avant le 19e siècle, elle va du sud de la Somalie. Mogadiscio n'est pas tout à fait une ville swahili, mais il y a des influences swahili à Mogadiscio. Du sud de la Somalie jusqu'au centre du Mozambique actuel. On peut y inclure les Comores, même si le comorien est une langue cousine du swahili et il y a quelques spécificités aux Comores, en particulier une influence de la culture malgache. Et quelques points, quelques ports du nord-ouest de Madagascar qui sont un petit peu à cheval entre la culture swahili et la culture malgache. Alors je précise tout de suite un point important, cette culture swahili c'est une culture côtière, c'est une culture de rivage, d'ailleurs le nom vient de là. Et jusqu'au 19e siècle, les swahili, la culture swahili est uniquement sur la côte, ne dépasse guère un kilomètre à peu près de la côte en termes de sites archéologiques, à l'exception d'une pénétration des Swahili du côté du fleuve Zambèze au Mozambique actuel vers la fin du 15e siècle. Donc c'est vraiment sur la côte exclusivement. Et les îles, bien
oui.
sûr.
Alors, cette côte va connaître un essor important justement à partir du 10e siècle, sans doute un peu avant. quand commence effectivement cette extorsion? On essaie de la dater.
Alors, on peut parler d'abord d'une culture proto-swahili autour du 6e, 7e siècle. Cette culture swahili, elle naît des échanges avec l'océan Indien. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être pas toujours très bien en France, mais l'océan Indien est un océan dans lequel le commerce maritime s'est développé très tôt sur de très vastes espaces, depuis le golfe Persique, la mer Rouge, l'Inde, vers l'Asie du Sud-Est, vers la Chine. Et l'Afrique orientale a été rattachée, connectée à ces échanges maritimes à partir du 6e, 7e siècle. Et donc, petit à petit, les gens qui étaient présents sur la côte se sont tournés vers le commerce maritime, vers un rôle d'intermédiaire entre la côte et l'arrière-pays. Et la culture swahili, on peut dire qu'elle naît vraiment quand l'islam commence à se diffuser sur la côte. La plus ancienne trace d'islam sur la côte, c'est une mosquée qui a été découverte au Kenya, dans l'archipel de Lamu, sur une île qui s'appelle Pate. Et cette mosquée, elle date de la fin du 8e siècle, vers 780. C'est une toute petite mosquée en bois, minuscule. Elle pouvait contenir environ 25 fidèles. Et c'est la plus ancienne mosquée au sud du Sahara.
On reviendra sur ces rencontres avec l'islam qui vont refaçonner le destin de cette côte. Mais revenons un peu sur une habitude qui est fâcheuse. Et je pose cette question aux spécialistes de l'histoire médiévale que vous êtes. Très souvent, en parlant de Moyen-Âge, il y a une habitude qui est très, très malveillante de considérer que c'est une période très, très obscure. Ce qui très, très souvent heurte, voire choque les spécialistes de cette région. Pourquoi l'essor du Swahili, qui intervient dans cette période-là, a gardé une telle vitalité et est un objet historique aussi important? Pourquoi aujourd'hui on en parle encore, certes dans des clubs d'initiés ou en tout cas chez les historiens, mais pourquoi ça a une telle importance?
Alors bien sûr, il y a la langue qui est aujourd'hui qui continue de se diffuser. C'est la langue africaine subsaharienne la plus enseignée au-delà, à l'extérieur du continent. C'est une langue du panafricanisme. Également, c'est également lié à la présence de ruines très impressionnantes le long de la côte, magnifiques, et d'un patrimoine culturel, architectural, de l'islam aussi, très ancien dans la région, qui sont une source de, pour nous, d'une certaine fascination pour ces temps anciens et qui me semble important de mettre en valeur, au même titre que l'Empire du Mali, le pèlerinage de Mansa Moussa, Grand Zimbabwe, ce site qui a donné son nom au pays qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, qui sont aussi des figures, des royaumes ou des vestiges que l'on met en avant pour mettre en valeur l'ancienneté de l'histoire de l'Afrique et sa complexité dès ces périodes médiévales anciennes.
Et c'est cette fascination qui vous a porté sur le sujet. Comment vous êtes arrivé à travailler sur cette côte orientale?
Alors moi, j'avais plutôt un tropisme Afrique de l'Ouest, mais ce qui m'a fasciné quand j'ai découvert cette région, ce sont les réseaux maritimes. Le fait qu'il existe une Afrique maritime très ancienne, dès le 6e, 8e siècle, ces navigateurs qui traversaient l'océan Indien pour commercer dans des ports africains, mais également les Swahili, qui sont donc des Africains musulmans, prennent aussi la mer, naviguent sur des bateaux le long de la côte est africaine, jusqu'à Madagascar, jusqu'aux Comores, et même à partir du XIIIe siècle, jusqu'au Yémen, et un peu plus tard, jusqu'en Inde. Nous avons des témoignages au XVIe, XVIIe siècle de navires Swahili qui se rendent jusqu'à Goa en Inde, ou au nord-ouest de l'Inde, et de pilotes Swahili également, dont les connaissances, l'expertise est louée par des voyageurs européens, notamment portugais, qui mentionnent le fait que certains d'entre eux sont des experts de la navigation entre l'Afrique de l'Est et l'Inde, qu'ils maîtrisent les cartes, les instruments de navigation, etc. Et ils sont même, pour certains d'entre eux, nous en avons des mentions, capables de corriger les cartes des Européens. Donc on a ici, ce qui est un peu contrairement à l'Afrique de l'Ouest, mais c'est parce que le continent est très hétérogène, une société africaine tournée vers la mer, également vers l'intérieur, et qui navigue sur ses propres navires et parfois aussi sur les navires des autres.
Parlons maintenant, après avoir posé le cadre dans l'espace et dans le temps, de ce qui va faire justement le socle de cet essor du monde swahili au Xe siècle. Parlons par exemple de l'agriculture. En faisant des recherches, on a vu que c'était des terres agricoles qui étaient abondamment mouillées par des précipitations qui étaient très très favorables et donc qui ont porté cette agriculture. On parle même de ce commerce de bananes qui a été très très puissant pendant cette période-là. Comment l'agriculture va-t-elle se structurer en compagnie de la pêche pour porter justement cet essor du monde swahili au Xe siècle. Alors, Thomas Vernet.
Merci pour cette question qui me permet aussi de présenter les Swahili comme des paysans et des pêcheurs. C'est vrai qu'on les considère très souvent comme des, avant tout comme des marchands vivant dans des ports, prenant des bateaux ou servant d'intermédiaires entre la côte et l'arrière-pays. Mais les Swahili, ce sont d'abord des gens qui sont des agriculteurs ou des pêcheurs, tout à fait modestes du point de vue de leur mode de vie. Alors l'agriculture, ce sont les céréales africaines, c'est la banane, effectivement. Pas encore le clou de girofle qui va se développer, une économie de plantation va se développer à Zanzibar au 19e siècle. Et c'est le cocotier. Le cocotier, c'est un arbre très important dans la culture swahili, un petit peu l'équivalent des oliviers pour les cités grecques. Avec le cocotier, on fait des toits en palme, on fait de la corde, on utilise l'huile de copra. Bien sûr, on mange la noix, la chair de la noix. Et c'est aussi un arbre qui, dans un certain nombre de rituels, est très important pour les Swahili. Et il y a effectivement, comme vous l'avez mentionné, également un commerce de produits agricoles le long de la côte, voire jusqu'au Yémen, de riz notamment, qui vient de Madagascar, qui transite par les Comores, ou de céréales.
Afrique, mémoire d'un continent.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit aujourd'hui Thomas Vernet, historien de l'Institut des mondes africains, pour parler de l'essor de la culture du monde swahili, et ce, au Xe siècle. On l'a vu, l'agriculture, mais aussi la pêche, sont structurées, les importations et les exportations se dessinent, et annoncent finalement ce qui va faire l'identité de cette zone carrefour. Vous avez mentionné les Indiens, vous avez mentionné justement cette côte, les influences arabo-islamiques. Le monde swahili connaît donc, à la faveur de ces rencontres, un développement fulgurant qui est porté entre autres par le commerce sur ces villes côtières. Quelle était la composition des populations, maintenant qu'on a posé un peu les bases et évoqué l'agriculture, la composition des populations du monde swahili, et comment justement ces rencontres et ces influences vont s'articuler? Thomas Vernet.
Alors les habitants de la côte qui vont développer la culture swahili, ce sont des agriculteurs qui parlent des langues bantoues. Donc les langues bantoues, c'est le principal groupe de langues en Afrique, c'est environ 500 langues, qui pratiquent la métallurgie du fer. On sait que les sociétés d'Afrique subsaharienne sont d'excellents métallurgistes, c'est le cas en particulier des populations de langue bantoue, et qui pratiquent l'agriculture. La société swahili, elle apparaît quand ces gens qui vivent sur la côte et qui sont dont le mode de vie est très peu différent de leurs voisins dans l'intérieur, vont se spécialiser dans un rôle d'intermédiaire entre la côte et l'arrière-pays. Dans le commerce de l'or, de l'ivoire, des esclaves, des carapaces de tortues marines, de produits agricoles le cas échéant, d'ambre gris, de résine de copal, etc. Et petit à petit, les gens de la côte vont se transformer au contact de ces influences extérieures, vont s'enrichir aussi, et des ports, des sites d'occupation, on parle de sites parce que ce sont des archéologues qui les ont étudiés principalement, donc des sites archéologiques, ces sites vont apparaître, des villes qui vont être dont l'existence va être beaucoup plus longue que de simples villages, et petit à petit, ces gens de la côte vont se distinguer de leurs voisins de l'arrière-pays, et notamment par l'adoption de l'islam. Ça, c'est fondamental pour définir la culture swahili. C'est une culture africaine, côtière, littorale, mais aussi islamique. Alors que les gens de l'arrière-pays ne sont pas musulmans jusqu'au 19e siècle, où il y a des influences plus tardives.
Ces influences se voient dans les archipels, sur la côte, dont Zanzibar constitue à lui seul un paradis, mais aussi à travers l'architecture, les cultures, on peut le dire ainsi, métissées. Elles s'entendent surtout en musique, ici, avec l'éternel Biki Dude. Passez-moi un coup de doigt, voilà bien si coup. Bikidude qui traverse les âges, une voix de 93 ans, pleine de rythme et de tonus, voix de cette identité mosaïque et éternelle. Thomas Vernet, parlons des produits. Vous avez commencé à les mentionner, vous avez parlé du fer, donc produits importants, la céramique, les coris, les poteries. Comment sont-ils matériellement commercialisés, à destination de quelle région par exemple ?
Alors, un produit qui est très important, c'est l'or, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui vient des hauts plateaux de la région de l'actuel Zimbabwe, dans le sud-est africain. Il y a deux régions au Moyen-Âge en Afrique qui exportent de l'or de façon significative. C'est l'Afrique de l'Ouest, surtout sud-ouest de l'actuel Sahel, et puis plus tard la région de l'actuel Ghana, un petit peu plus tard, et le sud-est africain. Donc cet or va transiter, arriver jusqu'à la côte. C'est aussi l'ivoire. Alors l'ivoire, c'est un produit très important sur la côte est africaine, bien plus qu'en Afrique de l'Ouest. Et il est principalement destiné à l'Asie, à l'Inde et à la Chine, mais surtout à l'Inde, où il est consommé en grande quantité pour faire en particulier des bracelets. Et les Swahilis ont toujours exporté de grandes quantités d'ivoire vers l'Inde. C'est soit direct, soit ça transite par la péninsule arabique. Les Swahilis, ce ne sont pas eux-mêmes, bien sûr, qui chassent les éléphants. Ce ne sont pas eux-mêmes non plus qui contrôlent les mines d'or. Ce sont avant tout des intermédiaires sur la côte. Ces produits sont amenés sur la côte par des populations de l'intérieur, des routes, animées par les gens de l'intérieur. Et là, je voudrais insister sur un point. C'est vrai qu'on parle des Swahilis parce qu'ils ont des grands ports, aujourd'hui des vestiges assez impressionnants, et des mosquées aussi très anciennes et qui sont toujours en usage. Mais il ne faut pas oublier ces gens de l'intérieur, qui sont des sociétés qui peuvent nous paraître un petit peu plus humbles, mais elles ont joué un rôle fondamental, en particulier pour apporter tous ces produits sur la côte. Et elles ont aussi ouvert des routes vers la côte. Ces produits étaient ensuite vendus aux Swahili, très souvent contre des tissus et contre des perles, le cachant d'autres produits, mais surtout des tissus qui venaient d'Inde, qui étaient importés d'Asie. Et ensuite, à leur tour, les Swahili les revendaient à des marchands arabes, persans, indiens, plus tard portugais, qui les conduisaient vers la péninsule arabique, le golfe Persique ou l'Inde.
Est-ce qu'il y avait une symbolique de cet or dans cette culture Swahili ou ce monde Swahili ? Est-ce que ça signifiait quelque chose ? Est-ce qu'on le gardait tout particulièrement ? Parce qu'on sait que dans beaucoup d'autres sociétés, par exemple, l'or peut avoir cette valeur très très chère, si on peut dire ainsi.
C'est une très bonne question que vous posez là, que personne ne pose jamais. C'est assez surprenant. Je trouve votre question excellente. Les Swahili consomment de l'or sous forme de bijoux. Nous avons des descriptions de bijoux. Les femmes en particulier portaient beaucoup de bijoux en or. Mais finalement, il y a assez peu de mentions de l'or dans les récits Swahili. Et on trouve assez peu de traces. Par exemple, les Swahili ont frappé des monnaies. C'est la première société subsaharienne, la plus ancienne, qui frappe des monnaies, à l'exception du royaume d'Aksum, qui est ancien, qui se trouve dans la corne de l'Afrique. Et parmi ces monnaies, qui, généralement, elles sont en cuivre, elles sont en argent. Et on a seulement retrouvé 3 dinars. Donc, le dinar, c'est une pièce d'or dans le monde islamique, frappée à Kilwa au XIVe siècle. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Donc, il n'y a pas une symbolique chez les Swahili. À mon avis, c'est parce que l'or est avant tout destiné à être exporté.
Kilwa, vous l'avez mentionné, on va l'évoquer. Et si le commerce est à la base de l'essor de la culture Swahili, cette prospérité va aussi se traduire dans l'architecture, la construction de flottes maritimes puissantes. Le monde Swahili du Xe siècle n'est pas un acteur passif. Il sera à l'initiative, le voyage étant une ressource et une énergie pour s'enrichir et se solidifier. Cet âge nouveau de la pierre, si l'on peut dire ainsi, va porter les villes côtières et les mettre sur orbite avec des constructions politiques, des stratifications sociales, la question de l'esclavage aussi, toutes ces choses qui vont constituer des remparts contre les agressions extérieures. Je vous en parle juste après le journal sur RFI.
continent. Avec Elgas.
De retour dans Afrique, mémoire d'un continent, et toujours en compagnie de Thomas Vernet, historien de l'Institut des mondes africains, l'IMAF, et aussi maître de conférences en histoire médiévale et moderne de l'Afrique à la Sorbonne. Il nous raconte la fabuleuse histoire de l'essor Swahili au Xe siècle. Parlons maintenant, cher Thomas Vernet, de ces villes, de ces cités-états, c'est la terminologie qu'il faut utiliser, qui seront l'identité de cette prospérité au Xe siècle. Vous parlez dans un article intitulé « Les trésors de l'islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar » de beaucoup de ces villes, on peut en citer quelques-uns, Paté, Malindi, Mombasa. Pourriez-vous revenir sur ce qui fait l'identité toute particulière de ces villes, notamment leur architecture, et que sont-elles devenues aujourd'hui ?
Ça, c'est un point très important. La culture Swahili, c'est aussi une culture urbaine. Et les Swahili, en tout cas les élites ou dans les récits Swahili, dans les chroniques, dans les mythes de fondation, la place de la ville est fondamentale. C'est une culture qui se perçoit comme urbaine. Il y a des cultures urbaines en Afrique, on a tendance à le négliger. Par exemple, dans le monde Haoussa, dans le nord du Nigeria, c'est aussi un monde de cité-état. Les Swahili sont organisés sur la base de la cité-état, comme les Grecs. C'est vraiment des principes tout à fait similaires. C'est aussi le cas dans le monde Haoussa ou dans le monde Yoruba, ce qui est aussi un exemple de l'hétérogénéité des organisations sociales et politiques dans l'Afrique ancienne. Et donc, ces villes, d'abord, ce qui les marque, c'est le fait qu'elles ont une durée de vie très longue par rapport à des sociétés ou des modes d'organisation, on va dire, plus villageois, dans lesquels les sites sont occupés sur des périodes plus courtes. Certaines de ces villes sont toujours occupées aujourd'hui. Paté, par exemple, au Kenya, c'est une ville qui est fondée vers 800. Elle est toujours habitée aujourd'hui. Donc, elle a 1200 ans. Aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à un village, sauf qu'à Paté, tout le monde habite dans une maison en pierre. Pour les gens de Paté, qui ont conscience de l'ancienneté de leur ville et de son apogée au XVIIe, XVIIIe siècle et de son influence à l'époque, c'est quelque chose qui reste très important. Ces villes, elles ont aussi une architecture qui est dense. Les Portugais vont être frappé par la densité de cette architecture. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont d'abord des villages, on construit en matériaux périssables, en bois, en terre, et puis petit à petit, à partir du Xe et surtout du XIe siècle, on commence à construire en pierre avec ce qu'on appelle du calcaire corallien, qui est la pierre locale qui est assez facile à exploiter. On construit d'abord des mosquées, et puis des tombes, des gens importants, et petit à petit, des maisons. Je pourrais citer un site qui est magnifique, qu'on peut visiter à côté de Malindi, un très beau site archéologique.
C'est où, on précise ?
Malindi, c'est au Kenya, sur la côte du Kenya, au nord de Mombasa. Et à quelques kilomètres, on trouve le site de Gedi, qui se visite. Ce site, dont l'apogée se situe au XIVe, XVe siècle, a eu jusqu'à 300 maisons en pierre. Un plan urbain très complexe, deux mosquées, dont une très grande, plus de 25 mètres de long, et une planification urbaine très complexe. Les élites, dans beaucoup de ces villes, petit à petit, se sont mis à habiter dans des grandes maisons. Et c'est un marqueur social, habiter dans une maison en pierre. Pas toutes les élites, et selon les époques, ça a pu varier. Et aujourd'hui, eh bien, il reste à Lamu, par exemple, qui est une ville magnifique sur l'île de Lamu, aujourd'hui sur la côte du Kenya. Il reste une partie de cette architecture du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. À Zanzibar aussi, mais c'est plutôt au XIXe siècle. Et des mosquées. À Zanzibar, il y a une mosquée qui a une inscription, et on sait qu'elle a été construite autour de 1150, quelque chose comme ça, elle est toujours utilisée. C'est sans doute une des plus anciennes mosquées d'Afrique subsaharienne, toujours en usage.
Transition toute trouvée, parce qu'on va parler de Kilwa, la ville de Kilwa qui a été une de ces importantes villes ou cités-états, si on reprend la terminologie qui est la plus employée par les historiens. C'est un point important de ce commerce de l'or, vous l'avez mentionné, qui venait des hauts plateaux zimbabwéens. Il y sera découvert des trésors architecturaux, comme cette mosquée essentielle de Kilwa. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui a été découvert et quelle a été l'importance de ce site?
Kilwa, c'est au début, autour du 9e, 10e, c'est un village modeste. Et petit à petit, la ville s'enrichit. La première mosquée en pierre apparaît au 11e siècle. Et la ville connaît un essor fulgurant, très grande prospérité au 13e, 14e siècle. Et en particulier, sous le règne d'un sultan qui s'appelle Hassan bin Suleyman, qui règne vers 1310, 1330, particulièrement riche. Evergette, ça veut dire qu'il construit pour la communauté et notamment il fait agrandir la mosquée de Kilwa, la mosquée principale, la mosquée du vendredi, en une très grande mosquée à dôme, à l'architecture très sophistiquée qui fait à peu près 35 mètres de long, qui est autour du XVIe siècle sans doute l'une des plus grandes mosquées d'Afrique subsaharienne. Hassan bin Suleyman est très riche, il fait également construire un très grand palais. Sa richesse, repose principalement sur la prospérité des échanges à cette époque, à l'échelle globale. Il y a une soif d'or dans le monde, que ce soit en Asie, dans le monde arabe, dans le bassin méditerranéen et aussi en Europe, au XIIIe siècle, début XIVe siècle. Et ce n'est pas du tout un hasard si Hassan bin Souleymane et Kilwa sont si riches au début du XIVe siècle. C'est aussi le cas de l'Empire du Mali. Mansa Moussa règne à peu près au même moment que Hassan bin Souleymane, au moment où l'Empire du Mali est le plus riche. On connaît le pèlerinage de Mansa Moussa à la Caire, qui a eu un écho formidable. Et Grand Zimbabwe, qui est ce royaume qui exporte de l'or depuis l'actuel Zimbabwe, et également à son apogée à cette période-là. Kilwa joue un rôle principalement dans le commerce de l'or. Elle contrôle, ou en tout cas elle a un certain monopole sur le commerce de l'or qui vient du sud, de la région du Zimbabwe, qui transite par un petit port swahili qui s'appelle Sofala, aujourd'hui au Mozambique. Et elle joue un rôle essentiel de relais dans ce commerce de l'or, c'est ce qui va l'enrichir.
Je vous invite à faire un pas de côté, cher Thomas Vernet. Ici, on aime bien déconstruire un peu les stéréotypes et les préjugés sur le continent. On dit souvent du continent que ce n'est pas un continent d'architecture ou un continent de pierre, et que ce serait quelque chose qui n'a pas forcément eu lieu dans l'histoire africaine. Vous venez de montrer qu'il y a beaucoup de sites. Pourquoi cette idée persiste-t-elle de ce continent sans pierre ?
Alors, c'est une bonne question. Ça peut être... Il est vrai qu'il y a beaucoup de régions du continent où l'on ne construisait pas en pierre, mais on utilisait des matériaux locaux qui étaient aussi très bien adaptés. Les grandes mosquées de Tombouctou ou de Djéné sont construites en terre, en banco, en paille et en bois, et ça suffit. Et c'est une architecture qui est locale et qui est tout à fait magnifique. Peut-être aussi parce qu'on pense que ce sont des influences extérieures islamiques, mais l'architecture swahili, par exemple, elle est influencée par l'architecture du Golfe Persique, de la Mer Rouge, un petit peu de l'Inde, mais elle est autochtone. Elle a des styles spécifiques qui vont d'ailleurs un peu évoluer au fil du temps. J'ai cité aussi Grand Zimbabwe, c'est un site magnifique. J'ai eu la chance de le visiter, qui n'a rien à voir du point de vue architectural avec le monde swahili. C'est un enclos et puis également une série d'enclos et de murs en pierre, pour certains d'entre eux jusqu'à une dizaine de mètres de haut, qui repose sur des principes architecturaux locaux de l'intérieur. Il n'y a pas du tout d'influence de l'islam. Et ce site est pourtant monumental et a dû mobiliser beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Alors, il faut aussi... par exemple, dans le royaume du Congo, quand les Portugais arrivent, il n'y a pas d'architecture en pierre. Et pourtant, le Congo est un royaume relativement centralisé, avec une capitale qui a beaucoup d'habitants au XVIe siècle, et il n'y a pas de pierre. Donc l'absence de pierre ne fait pas non plus absence de sociétés complexes, hiérarchisées, etc. Il faut aussi insister sur ce point.
Merci pour ce pas de côté qui n'a pas été glissant. Parlons maintenant de construction politique, justement, parce que c'était des cités-États. Comment ces États vivaient, comment ils étaient organisés. Ces sociétés étaient incarnées comment dans leur direction politique, Thomas Vernet ?
Premier point, il n'y a pas d'unité politique. C'est un monde, comme les cités grecques, c'est un petit peu la même chose, qui est divisé en une série de cités-États et de cités plus petites. Vous avez mentionné Barawa en Somalie, Paté, Lamu, Malindi, Mombasa, Kilwa, Zanzibar également. Des cités-États qui sont souvent en rivalité commerciale, politique, et il n'y a jamais d'unité politique avant le 19e siècle, avant le sultanat de Zanzibar, mais c'est une unité qui est imposée aux Swahili. La base de l'identité politique et sociale des Swahili, c'est vraiment la cité, comme chez les Grecs. Un Swahili va se dire appartenir à la cité. D'ailleurs, le mot Swahili pour désigner la ville, Mji, ça désigne à la fois une ville et la communauté d'appartenance la plus large d'un individu. On est d'abord quelqu'un de l'amou, un moi amou ou un paté, ça veut dire un citoyen de l'amou ou un habitant de l'amou de Paté. Alors, à la tête de six cités-États, il y a souvent des sultanats. Pas toujours. Parfois, il n'y a pas de sultan. C'est uniquement un conseil de chef de clan. Et ces sultans, quand il y en a, partagent toujours le pouvoir, ou très souvent, avec un conseil de chef de clan. Le pouvoir est assez disputé. Il y a rarement de pouvoir absolu ou très puissant. Ce qui est une très bonne chose parce que on discute des affaires de la cité, ce qui peut entraîner aussi les factions, des rivalités. Mais il n'y a jamais, ou rarement, peut-être Hassan bin Souleymane, et c'est sans doute quelqu'un de très puissant et qui impose une autorité à ses citoyens. Mais le pouvoir est souvent très discuté et les sultans sont relativement faibles du point de vue politique. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant comme construction politique.
La grande famille Swahili fait honneur aussi à ses racines bantoues et nous partons au Congo ici avec Edouard Mazengo.
Maneno aliyo nyambia, watu usiku la la, mi mi huke dinalia, mi kimu kumbuka mpezi, maneno alioniambia, watu usiku hulala, mi mi huke dinalia, mi kimu kumbuka mpezi, maneno alioniambia.
La voix pleine de larmes du guitariste de Lubumbashi, Edouard Mazengo. On va évoquer, cher Thomas Vernet, un point moins gai dans cet essor du monde swahili. On ne peut pas évoquer cette culture, la rencontre avec l'islam, sans parler de l'esclavage, parce que l'esclavage a eu lieu dans ces régions-là. Comment cet essor a composé avec cet esclavage? Est-ce que la cohabitation a-t-elle été toujours conflictuelle?
On parle du rapport entre islam et esclavage, il n'y a pas de conflictualité. La demande en esclaves depuis l'Afrique subsaharienne se développe avec l'essor du monde arabe et islamique en général, en Afrique de l'Ouest, dans la vallée du Nil et le long de la côte est africaine. Et donc les sociétés africaines locales fournissent des esclaves aux réseaux commerçants musulmans. Ce ne sont pas les Arabes ou des Persans qui viennent radier les gens d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Un petit peu au début, mais très vite, ces radias disparaissent. D'abord parce que l'islam se diffuse. Or, il est strictement interdit de réduire en esclavage un musulman. Et donc les Swahili, plus particulièrement, qui deviennent les gens de la côte qui deviennent musulmans, se fournissent en esclaves dans l'arrière-pays. Contrairement à des sociétés d'Afrique de l'Est, eux-mêmes ne produisent pas d'esclaves. Les Swahili, sur le plan militaire, ce ne sont pas des gens qui sont très, très puissants. Ce sont plutôt des intermédiaires et donc des réseaux de l'intérieur, notamment du nord du Mozambique, sud de la Tanzanie et aussi de Madagascar, fournissent aux Swahili des esclaves qui ensuite vont les vendre à des marchands arabo-persans, essentiellement pour l'exportation. Alors, les Swahili eux-mêmes ont aussi des esclaves, mais il faut pas être surpris. Toutes les sociétés islamiques d'Afrique subsaharienne ont des esclaves, et à la fois légitimés et codifiés par le droit musulman. L'esclave doit être aussi bien traité, il y a un certain nombre de règles. L'affranchissement est un acte pieux, donc il est aussi très fréquent. Les Swahili ont des esclaves. Mais cette traite, elle n'est pas énorme. Elle est continue depuis à partir du 8e siècle environ, on en a pas mal d'indices. Elle n'est pas non plus énorme. Elle va devenir vraiment considérable au 19e siècle, comme dans d'autres régions du continent.
Et qui dit essor dit forcément apogée, ou en tout cas l'équivalent. Il est coutume de dire que la civilisation a connu son apogée au 15e siècle. Le contact avec les Portugais mené, entre autres, par le navigateur Vasco de Gama à la fin du 15e siècle aurait précipité le déclin de cette civilisation après 5 siècles, voire plus d'ascension. Cette idée semble pourtant simpliste, à minima incomplète. L'arrivée des Portugais va cependant reconfigurer le commerce maritime et ils vont s'insérer dans les circuits existants. Alors, comment cette civilisation, Thomas Vernet, va-t-elle décliner et quelles traces vont persister pour colorer l'identité actuelle? Parlons déjà de l'arrivée des Portugais.
Alors, la notion d'apogée ou d'âge d'or, il faut s'en méfier parce que si... Quand on utilise ce vocabulaire, on suppose que derrière, il y a forcément un déclin. Or, les choses sont toujours... C'est pour ça qu'on a besoin d'historiens de l'Afrique ou d'archéologues. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Parfois, ça décline, et puis parfois, ça décline à un endroit, pas à un autre, où ça se reconfigure, comme vous l'avez très bien dit. Les Portugais arrivent, le premier contact, c'est Vasco de Gama, et les marins de Vasco de Gama et Gama lui-même sont très impressionnés par ce qu'ils rencontrent sur la côte, d'abord sur la petite île de Mozambique, parce qu'enfin, ils ont l'impression de toucher au but. Ils voient des produits d'Inde, ils voient de l'or, ils voient des épices qui viennent de très loin, et ils rencontrent aussi des musulmans. Et les musulmans...
Et ils sont fascinés par cet essor.
Ils sont fascinés, voilà. Et ils sont fascinés. Et en plus, les musulmans parlent arabe, les Portugais ont des interprètes de l'arabe, on peut tout à fait entamer le dialogue. Les Portugais vont s'établir sur la côte est africaine par des alliances, notamment parce que ces cités, elles sont souvent en rivalité, donc les Portugais vont jouer là-dessus. Mais ce sont bien souvent des Swahili eux-mêmes qui leur proposent ces alliances, hein, notamment la ville de Malindi, j'insiste sur ce point. Parfois par la force. Ils vont contrôler une partie du commerce, mais jamais complètement, et ce qui va conduire au déclin de certaines villes, et à l'inverse, à l'apogée d'autres. Par exemple, la ville de Patay, elle connaît son apogée au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, alors même, en particulier au XVIIe, que les Portugais sont présents. Les gens de Patay font du commerce avec les Portugais, avec l'Inde, mais aussi avec des gens qui sont censés, théoriquement, n'ont pas le droit d'être là, des marchands d'Arabie. Ils vendent de l'ivoire, des esclaves, etc. Et Patay connaît une période, à la fois sur le plan architectural, politique, et aussi de la culture lettrée, une période de déflorescence au XVIIe, XVIIIe siècle. D'autres régions aussi sont très peu touchés par les Portugais, comme les Comores, la côte Somalie. Il y a une reconfiguration, mais on ne peut pas parler de déclin. Les dynamiques se poursuivent. Ce qui, effectivement, il y a moins de sites, il y a moins de villes swahili qui sont créées, beaucoup moins qu'aux périodes plus anciennes, mais il y a aussi d'autres influences. Quand on parle, en fait, de l'histoire de l'Afrique, il ne faut pas toujours penser à l'influence des Européens, il y a aussi d'autres influences. Le climat, des dynamiques internes, des choses qui se passent dans l'intérieur du continent aussi, des migrations, d'autres facteurs qui jouent, et pas seulement l'arrivée des Européens.
On va plonger maintenant dans votre atelier de chercheurs, d'historiens. Sur quels documents, sur quelles sources écrites ou archéologiques travaille-t-on quand on est un médiéviste de l'Afrique et quand on travaille sur cette côte justement orientale de l'Afrique?
Alors, nos sources principales pour le Moyen-Âge africain, c'est principalement les écrits des géographes arabes médiévaux, des gens comme le voyageur Ibn Battuta. Mais malheureusement, ces sources, elles sont peu nombreuses et elles concernent principalement des zones d'interface comme le Sahel, comme la vallée du Nil, comme la côte est africaine. Et il y a bien des zones du continent pour lesquelles, avant l'arrivée des Portugais, nous avons malheureusement pas de sources écrites. Nous avons également beaucoup d'archéologie. On a la chance dans le monde swahili d'avoir une archéologie qui est très dynamique, beaucoup plus que pour le Sahel, et c'est un vrai problème. Et en plus, aujourd'hui, faire de l'archéologie au Sahel, c'est devenu largement impossible, malheureusement, et j'ai beaucoup de collègues qui le déplorent. Beaucoup d'archéologie qui nous permet de comprendre, par exemple, quand on trouve de la céramique, les importations, l'évolution des villes, de très bien dater les phénomènes, etc. On peut utiliser également la linguistique, l'étude de l'environnement, et parfois aussi des récits produits par les Swahili eux-mêmes. Mais malheureusement, ils sont assez peu nombreux. Il y a la chronique de Kilwa, par exemple, qui est très, très connue, qui date du XVIe siècle, qui est une excellente source, et qui nous montre d'ailleurs qu'à Kilwa, bien avant les Portugais, il y a pas mal de conflits dynastiques qui sont rapportés de façon assez précise dans la chronique.
Je suis ravi, cher Thomas Vernet, de vous avoir reçu dans Afrique, Mémoire d'un continent. Je rappelle que vous êtes historien à l'Institut des mondes africains, l'IMAF, maître de conférence aussi en histoire médiévale et contemporaine de l'Afrique à la Sorbonne. Nous avons évoqué donc cet essor du Swahili au Xe siècle. Zanzibar ou encore le Kenya sont connus aujourd'hui pour leurs paysages et rivages paradisiaques où safaris et stations balnéaires affolent les touristes. Cette modernité prend sa source dans une histoire très longue et très riche, celle du génie humain et des rencontres sur une côte orientale qui n'a pas fini de livrer ses trésors à l'histoire. L'essor Swahili est un des nombreux exemples de la richesse d'un continent dont l'histoire va au-delà des seuls stéréotypes coloniaux. Comme un symbole, cette formidable épopée historique swahili passe le témoin à l'instrument plurimillénaire de cette culture, c'est-à-dire sa langue. Elle est au cœur de tous les rêves panafricanistes aujourd'hui, rêves auxquels elle donne déjà des promesses, comme qui dirait d'un nouvel essor pour défier toujours cette éclipse qui jette encore son ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. C'est la fin d'Afrique, Mémoire d'un continent. Vous retrouvez bien sûr l'émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application Pure Radio. Merci à toute l'équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes de ce micro, Penaï Traoré.